Bonsoir, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce magazine. 21 provinces sur les 26 que compte la RDC connaissent déjà leur gouverneur et leur sénateur. Les élections n'ont pas eu lieu dans les provinces de l'Équateur, du Kwilu, de Maïndombe, de l'Ituri et du Nord Kivu, soit pour des raisons sécuritaires ou encore parce que les bureaux définitifs de leurs assemblées provinciales ne sont pas encore installés. L'Union sacrée obtient le plus grand nombre des gouverneurs. Après le vote d'aujourd'hui, la CENI s'apprête à proclamer les résultats provisoires des gouverneurs élus pour chaque province. Les élections des gouverneurs et sénateurs se sont globalement bien déroulées à travers les provinces. Quelle lecture faites-vous du déroulement de ces élections dans vos provinces respectives? C'est le thème des dialogues entre Congolais de ce lundi 29 avril 2024. Participe au débat Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Joseph Senda, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Joseph, plutôt Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à Denier, auditeur pratique de la radio de la paix.
Et Luc Loutala, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simoncel en sigle. Luc Loutala, bonsoir. Luc Loutala n'est pas encore en ligne, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mais vous, auditeurs de Radio Capi, vous êtes déjà très très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Mukubwa Passion Paul Ngoï. La CENI nous a organisé des élections dont l'issue était déjà bien connue, avec les mots d'ordre qui ont été donnés par les autorités morales d'une part et l'achat des consciences de nos élus d'autre part. Passion Boutsapou, depuis Bukavu Sud Kivu, il y a urgence d'imposer une loi pour empêcher ces politiques assoiffées de pouvoir de s'emparer de toutes les institutions. Comment expliquer qu'un seul candidat, élu député national, en même temps député provincial, sénateur et en même temps gouverneur de province, et bientôt j'imagine que certains seront encore nommés dans le gouvernement. La République n'est pas leur famille, moins encore leur propre terrain. Déjà, ils doivent imposer leurs règles, ils doivent s'emparer de toutes les institutions, comme si c'était un gâteau à partager à Kananga, au Kasaï central. Vous nous suivez sous la 93.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
21 sur les 26 provinces de la RDC ont organisé ce lundi les élections des sénateurs et gouverneurs et sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces élections n'ont pas eu lieu, comme je l'ai dit en début d'émission, dans le Kwilu, le Maïndombe, l'Ituri et le Nord Kivu, soit pour des raisons sécuritaires ou parce que les bureaux de leurs assemblées provinciales ne sont pas encore installés. Michel Kifinda.
À l'Assemblée provinciale de Maniema, après Depuima, c'est l'étiquette de l'Union sacrée Moïse Moussa et Corneille Katisamba qui a obtenu le maximum de voix aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs avec 21 voix sur le 21 votants. Pour les sénateurs, Pascal Omana, Idrissa Afani, Justin Kalumba et Faustin Luanga ont respectivement 5, 4 et 3 voix chacun. Dans la province du Lualaba, Fifi Masuka est en tête avec 21 voix sur le 24 votants aux élections de gouverneurs. Dans le Olomami, les tickets Marmo Banza Mouloumé et Roseno Akajilo est en tête avec 17 voix sur le 24 votants à l'élection de gouverneur. Dans les Tanganyika, Christian Kitungwa est en tête avec 17 voix sur le 25 votants à l'élection de gouverneur. Pour les sénatoriales, Vicky Katumwa, Christine Mwando, Masoudi Kilele et Patrice Mpungwe ont respectivement 5, 4, 3 et 3 voix. Au Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu a obtenu 19 voix contre 15 voix pour John Kabeya de l'UDPS. Dans le Haut-Katanga, Salomon Kalonda, Samalou Konde, Jacques Yaboula et Jean-Félix Pandé sont en tête au sénatorial.
Merci Michel pour ce reportage. Ici à Kinshasa, le ticket Daniel Bumba Lubaki de l'UDPS et Eddy Ieli Molangi du MLC ont le ticket a remporté l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Daniel Bumba qui a obtenu 37 sur 47 voix et donc le prochain gouverneur de la ville province de Kinshasa, Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Quel état des lieux peut-on faire des opérations de vote qui se sont déroulées aujourd'hui dans certaines provinces de la RDC pour élire les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ainsi que les sénateurs?
Merci beaucoup madame pour la parole. Au moment où je vous parle, la plénière est en session. Moi-même je viens de là parce que il fallait répondre à votre invitation. Et d'ici là, il y aura des décisions et des communiqués qui vont porter sur la proclamation des résultats provisoires des élections. Nous avons organisé des élections dans 20 provinces. Nous n'avons pas pu organiser les élections dans le Nord Ubangi parce que vous savez qu'il y a les dossiers de Yakoma. Nous n'avons pas été à Ituri pour les sénateurs, c'est repoussé au début du mois prochain. Nous n'avons pas été à l'Équateur parce que il n'y a pas longtemps, l'autorité venait de lever la mesure de suspension, donc d'ici là aussi, nous irons à l'Équateur. Nous n'avons pas été dans le Maïndombé parce que d'abord, il y a Kwamout, et puis il y a eu un arrêt de la Cour qui autorise aux députés provinciaux de poursuivre, donc d'ici là, ça sera fait. Nous n'avons pas été dans le Kwilu parce que, vous savez, Massima Nimba attend. Et enfin, nous n'avons pas été dans le Nord Kivu parce que là aussi, il y a le problème, mais il y a aussi l'arrêt qui reconduit les assemblées provinciales. Donc, dans les jours à venir, nous allons être dans ces provinces-là. Alors, dans les 20 provinces restantes, le rapport nous fait, relève que tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs à signaler. Partout, les élections se sont déroulées correctement. Et comme je le dis, la plénière s'est réunie pour examiner chaque cas et pouvoir proclamer les résultats provisoires qui seront transmis au cours pour les gouverneurs et à la Cour constitutionnelle, au cours d'appel pour les gouverneurs et à la Cour constitutionnelle pour les sénateurs. Donc, globalement, les choses se sont bien passées. Nous n'avons pas connu de problème. La sécurité nous a accompagnés. La population également, quoiqu'elle n'ait pas été concernée directement, mais elle a accompagné le processus et les choses se sont passées sans aucun écueil.
Alors, dans certaines provinces, nous apprenons, Joseph Senda, qu'il y aura un second tour pour l'élection des gouverneurs, le cas du Sud Kivu.
Bon, effectivement, je ne voudrais pas anticiper parce que je n'ai pas le droit de le faire, mais effectivement, il y a deux candidats qui arrivent en fait en tête. Il y a un qui a 20 voix, il y a un deuxième qui a 15. Et comme ils n'ont pas pu atteindre la majorité, vous savez que le Sud Kivu, c'est 48 électeurs. Il faut devoir gagner au minimum 24. Ils sont en deçà de 24, de la moitié. Et c'est comme ça qu'ils vont revenir au deuxième tour dans trois jours, dans 72 heures. Nous allons retrouver les deux candidats qui sont arrivés en tête, l'un avec 20 voix, l'autre avec 15. Mais comme je l'ai dit, la CENI va sortir les décisions. C'est ce qui sera plus officiel que tout ce qu'on est en train de dire et qui sort des réseaux sociaux. Donc, ils sont en plénière, comme je le dis moi-même, j'en
alors bien.
Donc, d'ici là, l'opinion publique sera fixée.
Pourquoi cette émission est aussi pédagogique, hein, Joseph Senda, comme vous le savez. Alors, pourquoi le second tour n'a pas été organisé directement après le premier tour? C'est que la loi demande d'organiser ça trois jours après.
C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit, que c'est le législateur et nous appliquons la loi. Le législateur dit que en cas de non-obtention de la majorité absolue, comme la loi l'exige, on va se retrouver au deuxième tour dans les 72 heures qui suivent. Donc, dans les trois jours qui suivent, les candidats venus en tête qui ont obtenu le plus de voix, ils vont se retrouver pour se départager. C'est la loi qui les dit et nous sommes soumis à la force de la loi.
Et donc, les résultats provisoires seront transmis plutôt au cours dans les prochaines heures. pour les prochains jours.
Oui, dans les prochains jours, donc disons demain, parce qu'en fait les décisions vont sortir cette nuit-là. On ne peut pas trouver un greffe qui soit ouvert à cette heure-ci. Les membres de la plénière sont là en train de débattre. Ils vont devoir apprêter tous les documents qu'il faut. Et puis ensuite, je crois que demain matin, on va devoir déposer les résultats au cours d'appel pour ce qui est des gouverneurs et à la Cour constitutionnelle pour ce qui est des sénateurs. À partir de demain. Et à partir de demain, nous commençons à compter les 3 jours qu'il faut pour nous retrouver en deuxième tour pour l'élection du gouverneur dans le site Kivu.
Merci. On vous garde encore dans cette émission. Jonas Tchombela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Quelle lecture vous faites du déroulement de ces élections, c'est-à-dire gouverneur et sénateur?
Merci beaucoup. J'atteste une bonne partie de ce que M. Joseph venait de dire, parce que moi-même, je suis présentement sur terrain dans le Congo central. J'ai suivi personnellement comment les opérations se sont déroulées ici à Matadi, et également sur une bonne partie du pays où nos coordinateurs sont en train de suivre également sur terrain. Relativement, tout se passait très bien. Partout où il n'y a pas eu de violence, ce que nous avons salué, comme le cas de Matadi, nous saluons les forces de la police a été à la hauteur de sa tâche avec discipline, et les honorables députés également ont dû s'acquitter de leurs devoirs civiques, voter, mais seulement lorsqu'on analyse ça, c'est la forme de l'organisation des élections. Il faut aussi saluer que la CENI a bien faire le travail avec un personnel très outillé, et à chaque fois, quand il y avait, comme le cas du Congo central, la machine pour le vote du gouverneur était tombée en panne, tout de suite on a eu une autre machine, un compromis a été trouvé sans casse, très bien. Nous avons salué cette célérité d'organiser les choses très bien. Mais au-delà de cela, dans le fond du problème, ce qui commence à nous inquiéter, c'est que lorsqu'on observe l'ensemble des résultats de ceux qui sont élus comme sénateurs, comme gouverneurs, nous sommes là en train de réfléchir comme si nous étions dans une république de familles et de mêmes figures. La république de familles et de mêmes figures. Les mêmes sont soit députés nationaux, députés provinciaux, gouverneurs, sénateurs, une seule personne. Ça ne peut pas marcher comme ça dans une société où tout le monde concourt pour apporter sa contribution au niveau du pays. Donc, on a remarqué des cas comme ça. Et les mêmes personnes sont en train d'attendre pour être demain le ministre dans le gouvernement. Au juste, ils veulent quoi? Ça, c'est le fond du problème. Au juste, ils veulent quoi? Et ce sont les mêmes qui sont partout, dans tout le poste. Et quand on va dans le détail, on observe que leurs suppléants, une bonne partie, est fait de membres de famille. Donc cette histoire commence à inquiéter un peu la conscience collective. L'éthique même politique congolaise est en train de prendre un coup au point où nous allons nous retrouver pris en otage par un groupe de gens. Et c'est la caractéristique de l'actuelle classe politique qui est au pouvoir. Il y a une propension très élevée vers les non-membres de famille, même si ça n'a pas commencé avec eux, mais je crois qu'ils ont amplifié ça et occupé tout le poste. Je pense qu'il y a même qui veulent être même président de la République si le cas était là. Donc ça paraît nous inquiéter, nous autres qui suivons la question de très près.
Parce que vous rejoignez un peu.
Et que surtout qu'au moment où nous parlons de la question.
Vous rejoignez un peu la préoccupation de Samuel Aosakadi qui nous écrit depuis Kisenso, ici à Kinshasa. Lui, il pense que si on ne change pas de loi dans ce pays, rien ne marchera, car c'est absurde de voir quelqu'un qui est député national, député provincial, sénateur, gouverneur, probablement ministre, aimant le Congo et non le pouvoir.
Vous avez tout compris. Je crois que le compatriote partage parfaitement notre point de vue, parce que c'est ce que nous qualifions la République des familles et des mêmes figures. Nous sommes dans le cas. C'est le même que nous avons vécu. Vous allez dans toutes les provinces, vous trouverez toujours la même figure. Elle revient à tous les niveaux. Et tout est pris et fait de telle manière que ce soit eux. Et ça, nous sommes pris en otage par une classe politique que nous ne pouvons pas comprendre, et dont la gestion risque d'être l'affaire de tout le monde alors que c'est l'affaire de famille. Donc, je crains fort que l'unité du pays, je crains fort que la cohésion recherchée ne soit pas rendez-vous à cause de cette propension vers le membre de famille et aussi le même figure. Et bientôt, le gouvernement, c'est le même qui va revenir. Et là, nous sommes partis pour la gloire. On ne peut pas attendre le développement avec un système exclusif. Nous avons besoin de l'inclusivité. Là, le rendez-vous de l'inclusivité est presque raté. Et puis, comment voulez-vous, vous êtes député, vous voulez être toujours... Même quand ils auront même dans ces institutions-là, ils vont toujours couper des postes de responsabilité. Ce qui n'est pas mauvais, c'est de leur droit, mais c'est quel type de gouvernance? Quelle est la politique qu'on met en place dans ces conditions-là? Donc, nous sommes en train de craindre cela et ça s'applique de se poursuivre avec les conseillers communaux bientôt, avec les conseillers communaux, les conseils urbains, le maire de la ville. La propension risque d'être celle-là, ce qui est extrêmement inquiétant pour la démocratie dans notre pays qui est devenue presque familiale, alors qu'on parle au nom du peuple. Et je me demande c'est de quel peuple on parle, de sa famille ou de quoi? Voilà autant de questions qui sont soulevées par ce que nous sommes en train d'observer dans les chefs de ceux qui sont aujourd'hui soit déjà sénateurs ou bien députés provinciaux comme députés nationaux, demain ministres. C'est la même famille et c'est la même histoire. Nous aurons le même résultat.
Merci.
Je redoute fort que le rendez-vous du développement de la question nationale ne soit pas obtenu aussi tôt.
Tshisugi Ismaël Mungu à Konkwa, la RDC mérite mieux que ça. Ce n'est pas seulement les seules personnes qui sont congolaises, plus que les autres. Roger Ning, le sérieux a quitté les institutions. Nous vous regardons. Tout était tracé. Luc Loutala, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simon Sel en sigle, vous avez salué dans un communiqué que vous avez rendu public l'organisation de ces scrutins par la CENI, mais seulement vous notez que ces scrutins se sont déroulés dans un contexte des hautes suspicions des violations des cadres légaux quant à la campagne, aux allégations de corruption, des dénonciations, des séquestrations des députés provinciaux et des désistements de plusieurs candidats.
Oui, bonsoir Madame Kelly, bonsoir à mes co-débatteurs, le directeur Senga et Jonas, et puis aux auditeurs de Radio Okapi. Effectivement, nous sommes une mission d'observation. Nous avons obtenu de la CENI l'accréditation des observateurs. Normalement, nous devions en accréditer 104. Mais finalement, les dispositifs étaient tels qu'il n'était permis de n'en accréditer que deux par province pour ces scrutins parallèles, parce qu'ils ne sont pas combinés, ce n'étaient pas les mêmes bulletins de vote. Alors, nous avons déployé nos observateurs. En fait, nous avions déjà eu les accréditations dans toutes les 26 provinces, mais là, nous avons dû déployer les observateurs sur les bureaux où c'était opérationnel. Et nous observons en tant que mission d'observation électorale, c'est d'abord la conformité des opérations à ce qui est écrit, les standards démocratiques. Nous observons en tant que mission, est-ce que les élections qui se déroulent sont conformes aux standards démocratiques? Est-ce que ça nous avance? Et donc, dans ce cadre, nous observons non seulement le contexte tel qu'il est, nous observons le travail de la CENI, nous observons la mise en place des procédures telles qu'ils se déroulent, et nous regardons notamment, si vous regardez les différents aspects, c'est vraiment les différents principes directeurs. Notamment, on va revenir sur le respect de la loi, la légalité. Et donc, d'un point de vue, il est important de rappeler aux auditeurs de Radio Capi et à la population que les scrutins combinés se sont déroulés en décembre et que maintenant, demain, nous allons entrer dans le cinquième mois et que les scrutins qui se passent maintenant, en fait, sont des dépendances des scrutins de décembre, qui vise à mettre en place les institutions, et on sait que les principales, c'est le président de la République qui est déjà en place. On venait de nommer une première ministre, on n'a pas de gouvernement, et ensuite il fallait mettre en place l'Assemblée nationale, il faut mettre en place le Sénat, les assemblées provinciales, et puis les gouvernements provinciaux. Et donc, les scrutins que nous vivons ici, quatre mois après, visent en fait à finaliser la mise en place de ces institutions. Et il est important de s'assurer, est-ce que ces institutions sont démocratiques? Donc, nous avons commencé par observer la campagne électorale. D'abord, le dépôt de candidature. Et ensuite, nous avons observé la campagne électorale en tant que mission de long terme. Et puis ensuite, nous avons observé le déroulé. Mais ce qu'il y a, c'est saluer quand même la volonté de la CENI, dans un contexte où elle a manqué des finances carrément, parce que après, en même temps, il y a tous ces phénomènes de détournement des fonds publics et on a une CENI qui manque des moyens. Et on salue que ces scrutins vont permettre de finaliser la mise en place des institutions qui permettent à l'État de fonctionner. Parce que sans ces institutions, tout est bloqué, rien ne marche, tout est bloqué. Donc c'est à ça que visaient ces scrutins. Et donc dans ce sens, nous saluons le travail de la CENI. Et on a vu que la CENI a dû revenir plusieurs fois sur le report, sur la révision de son calendrier opérationnel, avec tout ce que nous avons pu dire là-dessus. Bon, après, si la CENI n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent, on ne peut rien faire, même la plus belle femme du monde. Alors, en regardant le déroulement, est-ce que ce processus a permis d'avoir des élus qui sont là démocratiquement? Parce qu'après, ces élus qui sont là démocratiquement vont travailler pour l'État, pour la population, pour résoudre les problèmes de la population et se reconnaître la population. On commence par voir la campagne. On a eu une campagne totalement ahurissante où on a des phénomènes de tickets, ce qu'on appelle le ticket gagnant. D'abord, on a eu pendant le dépôt de candidature, il y a des cours d'appels qui ont rendu les listes définitives en dehors de délai. Ensuite, on va observer que la campagne est truffée par ce phénomène de ticket gagnant. Le ticket gagnant, en fait, c'est un phénomène assez bizarre qui se déroule et qui fait que les candidats à déposer sa candidature, les grands électeurs, donc les députés, eux, se choisissent déjà sous l'impulsion de leur autorité morale ou on ne sait pas. Ils se disent, voilà notre candidat à nous, celui que nous pensons qu'il va gagner. Et on a vu des défilés de ces tickets gagnants où les députés se prononcent, accompagnent le ticket gagnant à Kinshasa pour le prononcer, le présenter à l'autorité morale ou à des personnalités, notamment. Comme ça. On verra qu'après, ça viole complètement la loi électorale, ça viole tout ce qui concerne la campagne électorale et que ça pose un sérieux problème du secret des votes des grands électeurs. Ensuite, on va regarder pendant la campagne que beaucoup de dénonciations, on dénonce la corruption, on dénonce même la séquestration de certains députés. Vous avez entendu de ces phénomènes où apparemment des gens qui auraient donné de l'argent à des députés les séquestrent pour qu'ils n'aient plus accès à d'autres, sinon ils seraient contrebalancés. Donc, on a assisté à des désistements de dernière minute, notamment Sami Badibanga, il y a eu le musicien Koffi Olomide, et puis il y en a eu d'autres aussi qui se sont désistés en dénonçant de façon visible ces pratiques qui remontent carrément de ce qu'on peut appeler, et ils ont dit, le western.
Merci.
Alors, l'autre étape qu'il fallait observer, c'est le déroulement des scrutins mêmes. Là, nous avons observé la journée d'aujourd'hui et il faut constater que la CENI a fait de son mieux, mais il a été difficile à nos observateurs qui étaient accrédités d'accéder aux hémicycles. On a observé, et ça s'est dénoncé, qu'il y a des votes. On a évacué dans certaines provinces, notamment le Kasaï central, le Sud Kivu, où des députés, après avoir voté, on leur dit évacuer et que les dépouillements se seraient déroulés en dehors de la présence, sans la présence des candidats et sans la présence des observateurs, ce qu'on appelle le huis clos carrément. Donc, il y a des provinces où on a assisté à des choses comme ça. À Kinshasa, par exemple, les choses ont été télévisées, donc là, on voulait donner vraiment le modèle, dire ça se passe bien et qu'on sort, c'est du show. Mais avant que ça ne commence, Kinshasa, il y a eu un peu de trouble, on peut dire c'est la seule plénière qui a eu un peu de trouble avant de commencer.
Merci.
Alors on peut noter aussi qu'il n'y a pas eu une uniformité des heures. Oui, madame.
On va vous redonner la parole, hein, Luc Loutala. Le temps pour Joseph Senda de répondre très rapidement à votre préoccupation par rapport à l'obstruction au travail des observateurs. Joseph Senda, il y a même des journalistes, hein, je vais prendre le cas de Kinshasa, les journalistes qui se sont plaints, au fait, qui n'ont pas eu accès à l'hémicycle.
Bon, en fait, je viens de l'apprendre. Je me réjouis quand même que tous ceux qui avaient sollicité une accréditation l'ait obtenue de la part de la CENI, mais je n'ai pas encore reçu d'informations en ce qui concerne l'obstruction quant à l'accès à l'hémicycle. Vous savez très bien que les élections se sont déroulées en dehors des bâtiments de la CENI. Généralement, en pareille circonstance, comme nous l'avions dit une fois, nous demandons à l'Assemblée provinciale de nous réserver un espace que nous transformons en bureau de vote. Mais le reste du bâtiment reste à l'Assemblée provinciale. Donc, il peut arriver que les policiers qui sont là ne comprennent pas l'importance des accréditations, ne comprennent pas l'importance du macaron que porterait un journaliste ou que porterait un observateur. C'est par rapport à ça, probablement, qu'on a obstrué, on a empêché à certains d'accéder. C'est pas un nom de la CENI. La CENI ne peut pas avoir à la fois accrédité et à la fois refusé l'accès au bâtiment. Donc, c'est comme ça que je peux expliquer ce qui est arrivé. Nous n'avons pas été chez nous, comme nous le disons, c'est-à-dire que nous n'avons pas été au CEP, nous avons été à l'Assemblée provinciale, où, dans la salle à plénière, nous sollicitons un espace que nous transformons en bureau de vote, le reste demeurant Assemblée provinciale, avec toutes les tracasseries qu'il peut y avoir quant à l'accès. En tout cas, si cela est ainsi, je voudrais bien m'excuser au nom de la CENI, si quelque part des personnes accréditées par la CENI n'ont pas pu accéder dans nos bureaux de vote, il faut le dire ainsi, pour faire leur travail.
On va vous garder, M. Senda, pour écouter cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, au sud de Kivu.
Je suis à Bukavu, dans la province du sud de Kivu. La lecture que je fais du déroulement de ces élections pour le cas de notre province du sud de Kivu et ce décalage de 48 heures pour le deuxième tour que je déplore. Car, à mon avis, c'est une façon de cautionner la corruption. Ça devait se faire aujourd'hui même pour ne pas permettre aux deux challengers de consulter des députés pour une probable corruption.
Monsieur Senda.
Mais en fait, c'est la loi qui l'est dit. Je voudrais que le compatriote lise la loi. Je ne l'ai pas sous les yeux. Mais c'est la loi qui dit qu'en cas d'égal, en cas de non-atteinte, tu peux le dire, de non-obtention de la majorité au premier tour, il est organisé un deuxième tour dans les 72 heures qui suivent. C'est la loi qui l'est dit, c'est pas quelque chose qui relève de la compétence de la CENI. C'est le législateur qui l'a voulu ainsi. Donc, comme aujourd'hui, l'un a eu 20 au lieu de 24 minimum, l'autre a eu 15 au lieu de 24 minimum, eh bien, les deux, celui qui a 20 et celui qui a 15, se retrouvent dans 3 jours, dans 72 heures, pour que l'un de deux soit élu. Et nous allons voir ce qui va se passer ces jours-là. En cas d'égalité de voix, le plus âgé passera. C'est ce que la loi dit.
David, depuis Kinshasa, mes sincères félicitations à tous les gouverneurs et sénateurs élus. Que Dieu leur donne la bonne volonté d'aider le président à faire avancer le pays. Direction Kisangani, après le Sud Kivu, pour écouter cet autre auditeur.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Tchoko. Il y a lieu de reconnaître que les élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs se sont globalement déroulées dans le calme dans les 21 provinces sur 26 qui comptent la République démocratique du Congo. Ce qui est déplorable, c'est le fait que la plupart de ceux qui sont élus, surtout au Sénat, sont des députés nationaux pour la même législature, ce qui les obligeront à laisser un siège à leurs suppléants qui ne sont autres que les membres de leur famille. Les députés provinciaux n'ont pas fait la volonté du peuple, mais bien au contraire, ils ont plutôt obéi au mot d'ordre de leur parti que le regroupement politique ou voté les candidats qui ont mis beaucoup d'argent au détriment des meilleurs candidats de la population. Par conséquent, le peuple ne peut rien espérer, comme par exemple dans la province de la Tchopo, où les mêmes personnes qui ont failli et participé à la gestion chaotique de la province reviennent aux commandes avant ces élections égales après ces dernières.
toutes nos excuses hein, pour la qualité de la ligne de notre auditeur Émile Okonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Jonas Tombela, il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, cet auditeur de Kisangani.
Oui, il a tout à fait raison de s'inquiéter comme nous inquiétons aussi également. Parce que relativement, comme on l'a dit, les élections se sont déroulées, mais dans quelles conditions, dans quel contexte, il est difficile que nous puissions croire à la République des familles et des mêmes figures. Et avant, vous avez vu la campagne qui a accompagné ces élections, les actes de corruption ont été remarqués par-ci, par-là. Ce qui a fait qu'à la nouvelle décision, nous avons tout de suite émis un communiqué pour demander à toute personne qui pourrait détenir l'information, on a donné même des numéros de téléphone, des actes de corruption, de violence, de les dénoncer pour que nous puissions décourager ces hommes et ces femmes qui subissent des pratiques qui ne sont pas de nature à donner la bonne image du travail d'un législateur ou d'un gouverneur. Malheureusement, les mêmes Congolais ont des comportements de résignation. Ils n'arrivent pas à quitter cette peur de dénoncer la personne qui fait du mal, mais ils se plaignent. Donc, d'une part, la population est responsable aussi de ce qui a fait d'arriver, parce qu'elle n'arrive pas à dénoncer. J'ai le vécu, on a vu, à Kananga, par exemple, il y a eu des actes de violence qui sont posés avant les élections. On a parlé même des actes de corruption. Mais malheureusement, personne ne prend le courage de dénoncer cela. Et la justice elle-même encore. Et une fois la justice, nous avons vu les autorités judiciaires émettre des lettres par-ci, par-là, menaçant les questions de corruption. Malheureusement, cela n'arrive pas à résoudre le problème. La raison de s'inquiéter qu'avant les élections, il risque d'être après les élections, parce que ces hommes et ces femmes, la plupart, y arrivent parce qu'ils ont eu des moyens. Mais l'homme qui a l'idée, l'intelligence, l'initiative, ou bien qui peut expérimenter un autre programme, sans moyens, ce programme-là restera lettre morte. Voilà, l'inquiétude des compatriotes reste partagée parce que...
Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Faudrait changer la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour...
Je crois que c'est l'option.
Allez-y.
Je pense que c'est l'option qui sera prise. C'est l'option qui sera prise parce que quand nous sommes en train d'observer le processus, comme on le fait, nous allons en tirer aussi des conclusions. Et les conclusions iront dans le sens des réformes. Malheureusement, c'est les bénéficiaires de cette loi actuelle qui sont aujourd'hui au Parlement. Nous serons butés à une autre difficulté parce qu'ils sont bénéficiaires de ces dispositions qui fâchent, qui énervent l'opinion. Mais c'est le même personne chez qui nous irons pour demander des réformes. Est-ce que nous les obtiendrons? Parce qu'ils sont pas arrivés d'abord par des moyens qui ne sont pas assez très bien recommandables, mais nous irons vers ces gens-là, ce qui fait que les réformes ont encore du lendemain, ont encore du chemin à faire dans notre pays, parce que la volonté politique réellement d'organiser les choses telles qu'elles doivent se passer universellement, acceptables par le monde entier, n'est pas possible. Rappelez-vous, en 2011, la Constitution a été changée. Nous sommes partis pour l'élection présidentielle de 2 tours à 1 seul tour. Mais ceux qui arrivent, trouvant les bénéfices de ces dispositions, n'ont même pas pensé que nous pouvons changer ça pour remettre ce que nous demandions avec eux quand ils n'étaient pas au pouvoir. C'est fini, c'est parti pour la gloire parce que c'était la politique d'autres là que je m'y mette. C'est ça l'inquiétude. Donc on ne travaille pas assez très bien pour accompagner la population et trouver ce soir ces problèmes. Mais on travaille en principe, j'ai compris, c'est le service, le pouvoir se servir. Ce n'est pas le pouvoir servir. C'est ce qui se passe. Voilà ce qu'il y a comme inquiétude. Donc je partage parfaitement le point de vue de mon compatriote et sa crainte. Nous avons un combat à faire, citoyens, sans armes, avec nos stylos. Nous allons continuer à plaider pour les réformes, pour des élections réellement justes et crédibles.
Direction Kananga, au Kasaï central, pour écouter ce dernier auditeur.
Oui, Maître Alidor Mampouya, avocat à partir de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. Nous saluons l'élection des gouverneurs et celle des sénateurs. C'est une pratique qui garantit la démocratie dans un État qui se veut des droits. Et malheureusement, il y a eu des dénonciations, des cas de corruption avérés de part et d'autre. Et on n'a eu enregistré aucune interpellation, ni encore moins aucun dossier ouvert au niveau de la justice. Et l'on se demande, les autorités qui ont été élues sur base de la corruption, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'intérêt général ou pour le développement du pays.
Luc Loutala, cette question sur la corruption revient dans plusieurs réactions des internautes, des auditeurs qui sont en train de nous suivre. On sent une certaine déception, c'est vrai, pas pour toute la population. Certains sont contents, d'autres sont mécontents, mais la majorité, on sent une déception au fait.
Oui, Madame Kelly, ce qu'il faut remarquer, c'est ce sont des scrutins indirects, mais ça attire l'attention de la population. Donc, la population congolaise est fortement attachée à la gouvernance, à l'organisation des élections, à voir qu'elle va être dotée des nouveaux dirigeants. Et on sent effectivement qu'elle a fortement ce besoin d'avoir des dirigeants qui vont changer les choses. Et là, on a tout le problème de la redévabilité. Ça veut dire, le but de la démocratie, c'est vraiment de donner le pouvoir, de conférer les mandats à des personnes qui émanent du peuple, qui sont là pour travailler pour le peuple et qui savent qu'ils ont été élus par le peuple. Mais depuis décembre, justement, on est en train de décrier, et je crois que là, il y a une frustration suffisamment profonde. Non seulement il y a les blessures qui date de ce qui s'est passé en décembre, mais on est en train de voir que les scrutins tels qu'ils continuent se déroulent encore à évidemment en dehors et du respect de la loi et du respect du manque de respect de la population et en violation évidemment de tout ce qui est démocratique. Le vrai problème qu'il va y avoir, c'est d'avoir des dirigeants qui ne se reconnaissent pas avoir été élus normalement et qui se disent mais si je suis gouverneur, si je suis sénateur, c'est à cause de mon argent que j'ai investi. Et donc on a plus ou moins dans une sorte d'élection capitaliste, d'élection marchandise, d'élection commerciale que d'élection démocratique. Et l'autre chose qu'il faut constater, c'est l'ineptie des institutions d'appui à la démocratie, en commençant par la CENI elle-même. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à une CENI qui est réduite juste à un rôle caporaliste, hein, technique, pour amener des machines, faire ceci, faire des PV proclamés, et que on n'a pas véritablement une CENI qui peut se dire elle est garante du respect des règles pour tous. Mais en même temps, il n'est pas que la CENI seule. Il y a aussi, on peut voir les différentes institutions, je crois Jonas le disait, les cours et tribunaux, et même les partis politiques. On est dans un processus où même les partis politiques applique des choses totalement inouïes et je crois que nous sortons demain notre déclaration globale du mois de mars et on va y revenir. Mais en même temps, je crois que c'est l'occasion de rappeler que la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple et que si la population ne se prend pas en charge, on va avoir une population esclave où on a une population qui est responsable et donc qui réclame ses droits, qui s'est imposé ses droits, qui fait qu'on reconnaisse qu'elle existe, ou alors on a une population esclave. Et dans le cas d'espèce, je crois on a des scrutins qui sont très dangereux, c'est des scrutins très dangereux qui exposent au grand jour les failles de tout ce qu'on a d'anti-valeur, d'anti-démocratique, et on a l'impression qu'il n'y a personne pour dire on doit sauver les valeurs, on doit sauver les principes démocratiques. Il n'y a personne pour dire il y a quelqu'un qui doit respecter des règles. On a l'impression à peine qu'on est dans quelques règles administratives sur lesquelles la CENI tient encore pour exister comme CENI. Mais merci. Manifestement, en écoutant les auditeurs, en écoutant la population, et je pense que la CENI, comme tous les autres, sont d'accord, on est devant un processus qui a déçu.
Joseph Senda, quelle est la suite du calendrier électoral après ces élections des gouverneurs et sénateurs?
Comme vous le savez, La CENI travaille en fonction d'un cadre légal et en ce qui concerne les scrutins, nous sommes régis par la loi électorale. Si la loi électorale ne donne pas à la CENI un pouvoir quelconque en ce qui concerne notamment le comportement déviant de la part des candidats, la CENI ne peut rien faire. Nous savons qu'il y a ceux qui ont le pouvoir de par la loi du pays d'interpeller ceux qui posent des actes à caractère infractionnel. Nous signalons, nous sonnons les cris d'alarme, si je peux me permettre l'expression, et nous l'avions fait, nous avions dit qu'il y a risque que certains candidats ne versent dans la corruption. Ça, nous l'avions dit. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas un mandat quelconque, et surtout que il faut pouvoir réunir les éléments qui pourront faire que telle personne soit coupable des actes posés. Si ce sont des informations qui nous parviennent, nous sonnons. Nous tirons le cri d'alarme, mais nous attendons que les autres fassent leur travail. Maintenant, en ce qui concerne la suite, vous savez, la loi nous donne le pouvoir d'organiser 11 scrutins, 5 scrutins directs, 6 scrutins indirects. Nous venons de commencer la série des scrutins indirects avec l'élection de gouverneurs et sénateurs. Nous avons déjà ouvert les BRTC, les bureaux de réception et traitement de candidature pour les conseillers urbains et les bourgmestres. Nous ouvrirons d'ici un ou deux mois le bureau de réception pour l'élection de maire et de maire adjoint. Il n'est pas prévu la tenue des scrutins des conseillers des secteurs et des chefferies pour d'autres raisons. Donc ça c'est par rapport aux 6 scrutins qui nous restent à organiser, donc 5 principalement, parce qu'il faut écarter les conseillers des secteurs et des chefferies, et il nous faut terminer le reste des 6 provinces. Donc voilà le travail qui reste à la CENI par rapport à ses obligations légales. Comme tout le monde, la CENI se plaint du comportement de l'acteur politique, et nous avons entendu aussi bien de la part des co-débatteurs que de la part des auditeurs, surtout de la part des co-débatteurs, que ce sont ceux-là qui sont là, qui vont siéger, qui vont décider. Nous savons très bien que nous avons été à l'Assemblée nationale. Nous avions milité, du moins la CENI a souhaité que on ne puisse pas avoir parmi ces suppléants des membres de famille. Mais nous étions là, nous avons vu la réaction des concernés. Nous étions à la plénière de l'Assemblée, à une session de l'Assemblée nationale, et à une plénière de l'Assemblée nationale, je l'ai dit, et nous avons vu comment est-ce que les députés ont réagi lorsque la CENI a proposé qu'on ne puisse pas avoir parmi ces suppléants, les membres de famille. Donc ce sont ceux-là qui doivent décider, et je ne pense pas que demain ils vont décider. Donc c'est une histoire, une préoccupation collective qui demande que tout le monde s'investisse pour que les choses aillent pour le mieux. Parce que au-delà d'être agent ou cadre à la CENI, nous sommes des citoyens congolais, nous voulons que les choses marchent, quoi. Donc nous avons la série des scrutins qui restent à organiser, comme je viens de le dire, les conseillers urbains, nous avons ouvert le bureau de réception qui va aller jusqu'au 9 mai, et ensemble avec les bourgmestres, et nous allons passer au maire. Alors il faut préciser que il s'agira de 113 communes chefs-lieux de province, communes des villes chefs-lieux de province. Dans les 113 communes où on a élu des conseillers communaux et municipaux, c'est là qu'il y aura des conseillers urbains, à l'exception de Kinshasa, parce que si nous avons un conseil urbain, ça suppose que nous allons voter un maire. Je ne pense pas que Kinshasa aura un maire. Mais partout ailleurs, en dehors de Kinshasa, on doit avoir un conseiller, un conseil urbain composé de conseillers urbains élus en raison de 4 par commune. Si nous prenons Lubumbashi, qui a 7 communes, il y aura 28 conseillers urbains qui vont devoir élire le maire de la ville de Lubumbashi.
Merci, Joseph Senda. Je crois qu'on va vous inviter encore une fois lorsqu'il s'agira de parler de cette élection des maires de la ville. Nous sommes à la
fin. Merci. Donc voilà ce qui nous reste par rapport aux scrutins indirects à organiser.
Merci. Jonas Tombela, très rapidement, votre conclusion. Il y a Menji Benjamin qui pense que le problème, c'est eux-mêmes, les législateurs, qui s'étalent la part du lion. Du lion afin de tout gagner, ainsi pour changer aussi la loi. Ce sera très difficile pour que les législateurs puissent se punir. Je crois qu'on a perdu Jonas Tchombela. Luc Loutala, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, Madame Kelly. Donc,
alors, en conclusion, très rapidement.
Il faut regarder. Mais la conclusion, est-ce que la Simoncelle travaille de façon très proactive, hein? Ce que nous regardons, ce que nous observons, nous amène à projeter, à voir les failles de notre cadre légal. Et je crois que nous sommes en train de cheminer vers les réformes électorales. Nous voyons, par exemple, il y a une des questions très cruciales, c'est la répression des crimes électoraux. Pour le moment, et en écoutant le directeur Joseph Senda, nous nous en rendons compte chaque jour. Et il n'y a pas, il va falloir que la loi soit assez claire sur comment, qui a quel rôle pour réprimer les crimes électoraux. Et donc, je crois que la Simoncelle va s'engager à travailler là-dessus et à accompagner pour que les prochains cycles soient meilleurs. Mais en même temps, nous pensons que la CENI doit énormément travailler pour que la suite des opérations ne soit pas la réédite ou la copie de ce qu'on est en train de vivre. La CENI a énormément de capacité de jouer sur l'instruction préliminaire pour dissuader et transmettre aux cours et tribunaux. Mais en même temps, la troisième chose, et je crois qu'il faut rejoindre une grosse crainte, c'est que si nous continuons avec ce que nous sommes en train de vivre maintenant, nous risquons, et peut-être nous sommes en train d'aller, vers vraiment une seule tendance politique qui va régner avec des gens, si vous voulez, une certaine nomenclatura politique qui est en train de s'installer et qu'il va falloir que l'on travaille, que tous les acteurs politiques travaillent pour sauver la démocratie, les institutions comme la société civile et la population.
Merci voilà. Luc Loutala, Valérien Kissembe, depuis Kinkole à Kinshasa, les députés provinciaux ont déçu la population. Il est important de supprimer les élections indirectes. Le pays est pris en otage par un groupe d'individus et c'est très dangereux. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Dona Madimba, Jonathan Fonlani, Clément Chimanga, Mimi Kindou, Hervé Vokia, Pele Kipela Mondo a supervisé ce programme. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.